9 décembre 2021, en compagnie donc aujourd'hui du collectif toulousain pour la levée des brevets sur les vaccins. Donc là aujourd'hui, on se situe 2 ans après le début de l'épidémie de SARS-CoV-2, 1 an après l'arrivée des environ 1 an après l'arrivée des premiers de la mise en circulation des premiers vaccins. Donc c'était en janvier 2021 hein, pour le Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, qui a été suivi par Moderna, Johnson & Johnson, autant de laboratoires pharmaceutiques qu'on va évoquer aujourd'hui et dont on verra qu'ils tirent des bénéfices colossaux de cette pandémie. Donc aujourd'hui, où en est-on après, enfin 1 an après la mise en circulation de ces vaccins? Aujourd'hui, plus de 80% des vaccins contre le Covid-19 dans le monde sont allés aux pays du G20, alors que les pays à faible revenu, pour la plupart en Afrique, n'ont reçu que 0,6% de tous les vaccins. En cause notamment les prix fixés par les entreprises pharmaceutiques, dont la politique est validée par les États les plus riches. Donc, dès octobre 2020, l'Inde et l'Afrique du Sud ont fait savoir leur volonté d'ouvrir les brevets des vaccins Covid-19, suivis aujourd'hui par 164 États membres de l'Organisation mondiale de la santé. Face à eux, les États-Unis, l'Union européenne, l'Australie ou la Norvège ont fait savoir leur opposition à cette proposition. Donc aujourd'hui, on va en parler avec les membres du collectif toulousain pour la levée des brevets sur les vaccins. On parlera des vaccins contre le Covid, mais évidemment, on parlera d'autres traitements pour d'autres maladies qui sont aussi comment dire, touchées par on va dire, cet apartheid, ces inégalités d'accès et de traitement. Après cette longue introduction, bonjour à vous.
Bonjour.
Est-ce que peut-être pour commencer, vous pourriez rapidement vous présenter et nous expliquer un petit peu en quoi consiste un brevet sur, en l'occurrence, un vaccin.
Alors bon, je vais me présenter. Donc je suis François Barbier, je suis membre d'ATAC Toulouse. Et à ce titre, je participe au collectif Levée des brevets sur les vaccins anti-Covid. Mais vous avez raison, nous allons, surtout à la fin, une fois qu'on aura beaucoup parlé de ces vaccins-là, parler de l'extension du sujet à d'autres vaccins. Alors pour répondre à cette première question concernant les brevets, on va déjà donner une réponse rapide, hein. Le brevet, c'est une propriété sur une invention, sur un procédé, sur parfois même des études ou des tests, ça peut aller très très loin, qui confère au détenteur de cette propriété une exclusivité d'exploitation. Ça veut dire que seul lui ou ceux à qui il va revendre ce brevet pourra exploiter cette découverte, cette mise en forme, ce processus. Et alors, très important, il y a des cas particuliers, mais en général, cette durée d'exclusivité est de 20 ans.
Bonjour, je me présente, je suis Guy Molinier, je fais partie de l'ACTAP Sud-Ouest. Je m'occupe des actions de plaidoyer, de parcours de santé au sein de l'association. Et fait partie aussi membre du collectif toulousain pour la levée sur les brevets. Pour préciser les propos de François, il y a une question qui se pose aussi, c'est la santé bien commun mondiale. Est-ce que les médicaments doivent être-ils soumis aussi aux accords des brevets par rapport à la protection des brevets, qui en limite après, ce qu'on voit actuellement par rapport au Covid, mais qu'on avait déjà vu nous par rapport à la lutte contre le sida, qui en limite l'accès aux pays du Sud qui n'ont pas les moyens de se payer les médicaments, les traitements. Donc voilà, donc moi je pense qu'il faut remettre en cause cette notion de brevet sur les biens communs comme les produits de santé.
Ouais, merci. Alors justement, cette question de la santé comme bien commun, c'est un peu le fil rouge de notre discussion. Et d'ailleurs, un petit peu dans les ressources que j'ai pu parcourir pour préparer cette émission, il y a un article qui s'appelle Coronavirus, biens communs mondiaux contre Big Pharma, qui a été écrit par Éric Toussaint, que vous pouvez consulter sur le site du Comité pour l'abolition des dettes légitimes, qui revient un peu sur justement cette histoire de la production et de la mise sur le marché des vaccins que l'État aujourd'hui nous oblige à nous faire injecter. Les grandes entreprises pharmaceutiques comme AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Moderna ont bénéficié de financements publics pour la recherche médicale en 2020. Même par moment, se sont vus prépayer des doses au moment se sont vus passer commande en se faisant payer à l'avance les doses par les États, donc majoritairement les États-Unis, l'Union européenne. Et pour autant, cela n'a pas empêché ces laboratoires pharmaceutiques de leur vendre ces doses à prix fort. Donc les prix sont fixés en amont via des contrats entre les États ou en groupe d'États avec des différences notables. Par exemple, l'entreprise Moderna facture aux États-Unis une dose à $15, donc c'est environ 13 euros, alors que c'est 21 euros pour l'Union européenne. Je dis pas que le combat doit être d'avoir le même prix pour les États-Unis et l'Union européenne, mais ça questionne aussi sur l'arbitraire dans la fixation des coûts. Et d'ailleurs, l'argument qu'invoquent ces entreprises pharmaceutiques pour légitimer ce coût, c'est l'investissement en amont de recherche médicale. Or, en fait, l'argument ne tient pas, puisque ces investissements ont été en fait des investissements publics. Voilà. Et évidemment, cette question du coût des vaccins nous intéresse parce que c'est elle qui détermine aussi cette inégalité d'accès. Voilà. Du coup, ma première question, ce serait de savoir ce qu'on observe là, qui est évidemment, on va dire, très choquant en premier lieu. Ce qu'on observe, c'est le fonctionnement normal de l'industrie pharmaceutique, ou bien est-ce qu'on est dans une situation exceptionnelle?
C'est un fonctionnement normal, malheureusement, et qui ne date pas d'aujourd'hui, quoi. Par exemple, moi je peux vous parler, si vous voulez, de la lutte contre le sida dans les années 90. L'Afrique du Sud, pour permettre aux femmes séropositives d'avoir accès au traitement pour limiter la transmission de la mère à l'enfant, avait décidé de faire des génériques sur la ZET. Les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas apprécié que l'État sud-africain se permettre de faire des génériques pour permettre l'accès au traitement à l'ensemble de sa population. Ils ont porté plainte contre eux. Il y a une plainte mondiale des laboratoires contre l'Afrique du Sud. Et seule une mobilisation internationale de tous les activistes du monde entier ont permis de mettre en place un rapport de force qui a fait que cette plainte a été retirée. Non pas les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas retiré la plainte en se disant sur le coup c'est vrai qu'ils allaient limiter l'accès au traitement pour les personnes et que c'était tout simplement scandaleux, bon, qu'ils allaient revenir sur leur décision. C'est seulement le côté négatif de la mobilisation, de l'impact sur leur publicité en termes de laboratoire qui a fait qu'ils ont retiré leur plainte. Donc c'est des gens qui ont, en termes de santé publique, on n'a pas beaucoup d'empathie pour les populations, l'empathie de la population. On voit par exemple que certaines molécules ont été arrêtées du fait de non rentabilité, par exemple de formulation pédiatrique de certains antirétroviraux. Voilà, donc c'est des gens qui sont dans une logique de marchandisation et qui n'hésitent pas à faire pression sur les États qui veulent fabriquer même utiliser ce qu'on appelle la licence obligatoire, qui veulent fabriquer des génériques pour pouvoir en faire bénéficier leur population.
Et donc, pour faire suite à ce que dit Guy, à ce scandale économique que vous avez bien décrit, vous l'avez fait presque notre travail, merci. Ce scandale économique, on y reviendra un petit peu sur notamment la formation du prix, et je vais revenir aussi sur tous les éléments qui font que, dans ce cas particulier, il y a eu un financement public et une aide publique hors du commun, exorbitante par rapport aux habitudes. Il y a également un scandale fiscal sur lequel on reviendra tout à l'heure, mais à mettre en regard vis-à-vis du scandale humain et du scandale sanitaire qu'on détaillera, on donnera des chiffres aussi tout à l'heure. Donc pour revenir sur votre question, le scandale économique, il est d'autant plus important qu'il y a effectivement des financements publics de l'ordre de, je crois, plus de 2 milliards de dollars attribués par les États-Unis, l'Union européenne, également le Royaume-Uni, principalement. Mais il y a également des aides aux phases de test, c'est-à-dire que les États ont beaucoup favorisé le fait de trouver des cohortes, les recruter, les financer, etc. Il y a une accélération aussi, donc dans tout le processus de production, une accélération des phases de mise sur le marché, justement, par une mobilisation de ressources qui est habituelle et qui a été attribuée exceptionnellement cette fois-ci. Et pour finir, il y a également la prise en charge, et là sur le plan juridique, des risques qui seraient liés à l'utilisation, alors risques non avérés, mais qui pourraient survenir. Et donc le prix, le coût éventuel de suite judiciaire est pris en charge par les États. C'est-à-dire qu'en fait, le capitalisme, qui quand même fanfaronne en disant le profit est justifié par le risque que nous prenons, en l'occurrence ici, il y a zéro risque. Il y a des profits, donc on est aujourd'hui à 10 000 dollars de profit par seconde. Je dis bien par seconde, hein, c'est pas par minute. C'est-à-dire, là, pendant que je vous parle, ils ont engrangé pratiquement 1 million de dollars de profit. Hein, pas de chiffre d'affaires, de profit. C'est gigantesque.
Ouais, les profits qui, du coup, constituent 80% de leur chiffre d'affaires, puisqu'ils font une marge de 80%.
Alors, sur le coût de production, c'est un peu
bon,
compliqué.
Parce c'est un détail,
c'est un peu la bouteille à l'encre. Parce qu'effectivement, si on prend les chiffres d'Oxfam, on est bien sur une production pure de 1 dollar par dose produite. Alors effectivement, les prix actuels vont être de 19,50 pour Pfizer et 21,50 pour Moderna, en tout cas pour l'année 2022, ce qui est une augmentation de 25% par rapport à l'année 2021 déjà, alors qu'on produit de plus en plus, ça va à l'encontre même de ce qu'on appelle les prix de revient marginaux. Enfin bon, passons, on ne va pas faire de l'économie parce que sinon ça va nous donner encore plus de boutons. Donc on voit que ce soit dans la formation du prix, alors certes il faut tenir compte peut-être des coûts, en plus de la production pure, mais ceux-ci ne sont pas tellement connus, et c'est pour ça que c'est absolument... Enfin, il y a des tas d'hypothèses qui circulent. Bon, de toute façon, si ce n'est pas 80%, c'est au moins 50%, et donc ce sont des profits faramineux sur un risque de zéro.
De toute façon, on n'est pas en train de... Comme disait Guy, on parle d'un bien commun mondial, et en fait, on n'est même pas à discuter la marge légitime que doivent se faire les labos. En fait, il y a aussi ça,
d'accord.
De se dire... voilà.
Non, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que même sur l'argumentation pure capitalistique, déjà... Ça ne va pas. Après, effectivement, on va voir, et ça c'est une chose que je pense qu'il serait intéressant de voir pendant ce magazine, c'est comment la propriété intellectuelle sur la santé, c'est-à-dire sur les brevets des vaccins, des traitements, parce qu'il n'y a pas que les vaccins, il y a quand même les traitements et les tests, hein, tout ce qui est appareillage de diagnostic, comment la profitabilité a été accaparée à travers l'OMC et ADEPIC, qui est un accord bien spécifique sur la propriété intellectuelle liée au commerce, a été accaparé à partir des années 1990. Et comment, aujourd'hui, ceci pèse, justement, dans la lutte contre la pandémie.
Dans la logique capitaliste, normalement, plus on achète, plus les prix baissent, normalement.
Pas plus on achète, c'est plus on produit. Que non. Les prix baissent.
Non, mais voilà, bien, plus il y a des commandes, normalement, on arrive à négocier les prix pour que les prix soient moins élevés. Là, on n'est pas dans cette situation-là. Plus on fait les commandes à Pfizer, ils ont une totale liberté de fixer les prix. Donc, politiquement, on n'arrive pas à le contrôler. Donc, il y a une volonté politique de ne pas le contrôler. Ça fait que Pfizer se permet en même temps d'augmenter le prix de son vaccin, alors qu'il y a, il y a une augmentation en termes de nombre de commandes. Donc, voilà. En plus de ça, voilà, comme ils ont le monopole sur les vaccins, automatiquement, ils se permettent voilà, toute cette horreur de gestion capitaliste, voilà, sans tenir compte des droits humains.
On fait une petite pause musicale, on se retrouve juste après.
Life sucks and I never try suicide. Mind's fucked even more than I realize. Time's up, keep it moving when she arrives. If you ever heard what I heard in my mind, never try, you would cry, that's a lie, you would die. I don't wanna ever come down from a high, I am in the best seat. From time and the next breed, if you're coming, come at me directly. Don't need no one to defend me. Souls in a place even I can't get to. Don't fuck with the deadly. Moon waves and open seas, quick coasts and overseas. Fuck those who don't believe. They will never wanna admit I'm the best here. From the mere fact that I've got ovaries. It's a woman's world, so to speak. Pussy, you sour. Never giving credit where it's due, cause you don't like pussy anymore. Power, venom. My, if you ever heard what I heard in the night, what a fright, must have been a parasite in my past life. I don't wanna ever come down from a height. My soul was sending to the sky, it's just you and I. Gone, but I'm feeling too alive, trying to get me out of spite. Someone's gotta pay, I ain't talking big amounts. Some kind of physical pain, some kind of traumatic shit. Niggas wanna see dead bodies, probably not they enrolling with no automatic clips. Moving scatter, you all erratic and shit. Niggas pussy looking batty and shit. Oh, you mad, then come at me, you prick. Make a move, better pattern it quick. I assume you'll be coming for blood. That makes two of us, that makes two of us venom. Venom. nighttime to daylight, we roll trees, save lives, invade minds that go deep. Oh, he wouldn't have guessed, I'm so chill. Part of the day in the life you won't see. Part of the day in the life you can't be here for. It's the day in the life of OGs. Dealing with inner demons, I won't leave. Not a word you will listen when my soul speaks. Down I go, so follow me, follow me, follow me. Actually, don't follow me, nobody bother me. I'm a mess, honestly, fuck all your policies. They wanna kick me down and demolish me. Use me or fucking abolish me. I don't wanna hear no apologies. Or am I in my own head? Can't tell anymore. Psychotic to the death. When I dig deep, I can never find nothing left. It's a mystery. Rage, nothing but rage. Can't figure out if I'm going insane. Ain't no doubt we'll be showing no mercy. So think twice if you wanna get blazed. Nothing ain't nice right here, no games. I don't wanna dart nobody in a flash. True versus the cop. Hands in the air, put the money in a bag. All cash, venom.
Dans le magazine, pardon, un petit peu enroué, de retour dans le magazine de Canal Sud, il est bientôt midi, enfin il doit être midi et 24 minutes. On est en compagnie du collectif toulousain pour la levée des brevets sur les vaccins. On a commencé par une petite présentation du fonctionnement économique de cette Big Pharma, telle que on l'appelle. En gros, ce que vous disiez, c'est que ça correspond même pas à un fonctionnement de marché en concurrence. En fait, ce sont des entreprises rentières qui bénéficient d'une rente sur justement ces brevets, d'où la nécessité de s'organiser et de lutter pour la levée de ces brevets, pour défendre le bien commun mondial qu'est la santé. Comme je le disais en introduction, il y a l'Inde et l'Afrique du Sud qui ont porté justement devant l'Organisation mondiale de la santé, suivie par 164 pays, la demande d'une levée sur les brevets. L'Union européenne, la Suisse, la Norvège s'y sont opposés. Le gouvernement de Biden a une position un peu ambiguë, puisque en fait Biden s'est déclaré favorable à la levée des brevets sur les vaccins, mais sans que ce soit suivi par la moindre action. Ma question, c'était qu'est-ce qui détermine du coup la position des États dans la défense ou non de la propriété sur les brevets ?
Oui, alors sur les positionnements, effectivement, on voit que les pays qui sont les plus farouchement arc-boutés contre la levée des brevets sont, comme par hasard, les pays dans lesquels se trouvent les laboratoires. Ce n'est pas une surprise. Même si les gouvernements, ou en tout cas des représentants des gouvernements, peuvent exprimer une position ou nuancée ou contraire. Par exemple, Biden, c'est je crois le début mai 2021, a pris position pour une levée, certes provisoire, mais une suspension de l'effet des brevets pendant la pandémie. Donc ce n'était pas une démarche donc généraliste pour l'ensemble des brevets, c'était au moins pendant les périodes les plus dures de la pandémie, période dont on n'est pas sorti. Et bizarrement, Macron, qui était contre la levée des brevets et qui favorise plutôt une politique où les pays du G20 vont donner ou de l'argent ou des doses, là, brutalement, Macron a embouché un petit peu ce qu'avait dit Biden. C'est-à-dire que le 6 mai, il a dit ce que Biden avait dit le 5 mai, en gros. Ça, c'est bien gentil, mais dans les faits, on n'a vu aucun effet positif sur la fabrication, la production plus étendue des vaccins. Et d'ailleurs, c'est un point sur lequel il faudra qu'on revienne, c'est que il y a la question des brevets non seulement pose un problème de coût, ça on l'a vu tout à l'heure, donc on ne va pas y revenir, mais pose aussi un problème de production, c'est-à-dire même à un coût élevé, on ne peut pas produire plus que ce que veulent les laboratoires. Et c'est ça qui est aussi un problème très, très, très dur, de voir que des gens meurent, et aujourd'hui on est à 10 000 morts officielles par jour, uniquement parce que des labos ne veulent pas permettre à d'autres de produire, même au prix qu'ils ont. Et on pourra peut-être détailler, si vous êtes d'accord tout à l'heure, le dispositif COVAX, qui est mené par un certain nombre d'organismes sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, avec comme bras opérationnel l'UNICEF, et on voit que ce dispositif qui devait permettre des injections grâce à des dons de doses ou d'argent dans l'ensemble des pays pour en gros vacciner les populations les plus fragiles de tous les pays du monde, et c'est un échec. c'est un échec, ils n'en sont même pas à 14% ou 15% de leur objectif. Donc, même en levant les problématiques de prix, on a des problématiques de production. Or, l'appareil de production, il est là, notamment en Inde, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'Inde qui était un des pays les plus promoteurs
de la levée des brevets. Tout à fait, parce qu'après, on prendra vraiment du temps pour parler d'autres choses aussi que le Covid, parce que c'est, voilà, ça commence à bien faire cette histoire. Mais j'ai entendu parler notamment d'un vaccin qui a été produit à Cuba qui serait libre de droits de propriété. Est-ce que vous avez eu des informations là-dessus ou pas?
Alors, personnellement, je n'ai pas d'informations. J'ai épluché le plus possible le dashboard de l'UNICEF, hein, parce que l'UNICEF, donc, dépositaire de la réalisation du programme COVAX, donc la facilité d'accès aux vaccins dans les pays les plus défavorisés, notamment les 92 pays les plus défavorisés du monde. J'ai radé les chiffres. Alors aujourd'hui, le nombre de vaccins dont il est question dans le monde, juste par rapport au Covid, hein, on est de l'ordre de 400 vaccins à l'étude. Donc évidemment, on ne les connaît pas tous. Sur ces 400 vaccins, il y en a à peu près la moitié qui sont dans des pays dits riches, développés, hein, 200, 220 et quelques, 220. Et puis, il y a uniquement 27 vaccins qui ont fait l'objet d'agréments, c'est-à-dire qui ont pu poursuivre toute la série des étapes. Alors, je ne sais pas si le vaccin dont vous faites état, là, venant de Cuba, a déjà suivi ces étapes, hein, c'est-à-dire qu'il a suivi les étapes de phase et qu'il est, on va dire, autorisé, au moins dans certains pays. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, ce sont 27 vaccins qu'il est possible de produire.
Je dois revenir juste un petit passage qu'avait souligné François juste avant. C'est l'histoire des dons. Par exemple, Macron s'aligne vraiment en disant il ne fait rien, si vous voulez, sur la levée des brevets. Par exemple, la réunion de l'OMC ou autre, où la France pourrait prendre une position ferme et définitive en disant il faut lever les brevets, il faut transférer que les laboratoires transfèrent leur technologie pour la fabrication des traitements. Donc, il se cache derrière une image bien pensante,
charitable,
disant on va faire des dons au pays du Sud. Mais ça montrait ses limites. Ses limites, c'est pas de complémentaire d'une politique de levée des brevets, mais en même temps, ça veut dire aussi que certains États, il a été reconnu que par exemple le Nigeria a reçu des dons d'AstraZeneca qui arrivaient à terme. Donc, ça veut dire qu'il y a 1 million de doses qui ont dû être jetées parce qu'on arrivait à la limite de l'utilisation. Et puis, en même temps aussi, les pays du Nord envoient aux pays du Sud les vaccins qui ne valent pas trop, ou bien qu'il y a une réticence dans leur pays, par exemple, comme AstraZeneca, une certaine réticence pour les prendre. Donc, par contre, ils ne vont pas envoyer du Pfizer, parce que Pfizer, en ce moment, dans le pays du Nord, ben, c'est la troisième dose. Donc, il y a une utilisation des dons comme ça, en termes de communication, que je trouve très charitable et autres, mais en même temps, voilà, qui est catastrophique en termes de santé publique au niveau mondial.
Alors justement, sauf s'il y a d'autres choses à rajouter sur le Covid, mais peut-être qu'on peut élargir, puisque c'est un peu l'arbre qui cache la forêt aussi, cette histoire. Il y a tout à l'heure, hors antenne, on parlait de traitements liés aux hépatites, justement, dont les coûts un peu faramineux avaient... Pardon.
Non, je te coupe, pardon, mais on n'a pas fini sur le Covid, parce que je pense qu'il va falloir parler aussi, si vous voulez, les conséquences du fait de ne pas vacciner les pays du Sud, c'est-à-dire l'apparition de variants. Par exemple, il y a la mobilisation qu'on avait mis en place, qui est une mobilisation où on a participé modestement à Toulouse, qui est une mobilisation européenne et même mondiale, pour faire pression sur l'OMC qui devait se réunir le 30 novembre à Genève, où justement le but de la discussion était sur les accords ATPIC. C'est-à-dire sur la propriété intellectuelle. Et c'est assez cynique d'annuler cette réunion-là, juste parce que la veille, il y a eu l'apparition du nouveau variant Omicron qui vient d'Afrique du Sud, et que ce qu'on dénonce, justement, nous, c'est que la non-possibilité d'accès aux vaccins pour les pays du Sud favorisait l'apparition de variants dans les pays du Sud. Et on tombe justement en fond, l'actualité nous donne raison par rapport à ça. C'est-à-dire, la politique de Macron de faire une obligation vaccinale en France, ou dans d'autres pays, ça se fait comme ça aussi, si on ne tient pas compte que c'est une épidémie qui est mondiale et qu'il faut vacciner mondialement la population pour limiter justement l'apparition de ces variants-là, ça veut dire qu'on n'a rien compris en termes de santé publique, mondiale, je parle. Et les conséquences des politiques actuelles sont là aussi, quoi. 10 000 morts par jour.
Ce rassemblement, il y a eu un rassemblement à Toulouse et dans plusieurs villes de France, c'était le 30 novembre dernier. Est-ce que du coup, ça peut être l'occasion de parler un petit peu de ces collectifs, de ces associations, des messages que vous portez? Tu as déjà quand même commencé à bien en parler, mais de la manière peut-être dont... dont vous avez qu'est-ce que vous avez porté en fait ce 30 novembre?
Alors d'abord sur les collectifs, donc les collectifs européens, français et puis après toulousains évidemment existent, enfin toulousains c'est récent, mais il y a eu des actions à Toulouse depuis plus de 6 mois, mais le collectif s'est constitué, on a commencé en septembre en fait à se réunir, donc 7 organisations. Il y a ATTAC, il y a ACT UP, il y a Solidaire, Sud, on a FSU, CNT et CGT Santé. Voilà. Donc c'est syndicats et associations. Mais au niveau européen, ce sont des tas d'organisations, d'ONG, voire d'individus dans certains cas. Et les actions du 30 novembre, justement, étaient convergentes et étaient synchronisées, liées justement à la réunion qui devait se faire de l'OMC. Et il y a eu des actions à Genève.
OMS ou OMC?
OMC. Hein.
D'accord, ok.
Mais c'est ça le scandale dont on parle. Hein. C'est l'OMC qui gère les brevets, c'est pas l'OMS. C'est bien là qu'est le problème.
Ok.
On va y revenir tout à l'heure, justement, si vous le souhaitez, sur la question de la propriété intellectuelle sur le commerce, dans lesquels sont placés les brevets sur les vaccins, traitements et tests. Hein. C'est ça dont je parlais tout à l'heure, qui en 95 a basculé avec la création de l'OMC et l'accord ADEPIC. Donc pour revenir sur les collectifs, ils se sont organisés depuis un certain temps, ils ont convergé donc dans des actions à Genève, puisque c'est le lieu du siège, c'est le siège de l'OMC. Il y en a eu dans plusieurs villes du monde, plusieurs villes d'Europe et plusieurs villes françaises. Alors ce n'est pas un mouvement massif en France, néanmoins il y a eu quand même des actions symboliques, notamment avec des chaises vides, avec des lumières qui symbolisaient les gens qui étaient décédés, etc. Et à Toulouse, donc nous étions à peu près une 60aine de personnes rassemblées place Saint-Étienne devant la préfecture de la Haute-Garonne. Nous avons rencontré en délégation le directeur, c'est M. Cardois, le directeur de l'ARS, mais pour le département de la Haute-Garonne, et une dame qui fait partie du cabinet du préfet, qui nous ont écoutés, donc ils nous ont écoutés d'ailleurs longuement, on a été reçus plus d'une demi-heure, mais ils ont surtout écouté, on leur a même appris un certain nombre de chiffres, c'était un peu étonnant, et ils nous ont promis de remonter nos arguments, au cabinet de Franck Riester en premier lieu, c'est ce qu'on demandait, puisque c'est lui qui est le ministre qui participe aux négociations pour le commerce extérieur, donc à l'OMC, mais également au cabinet d'Olivier Véran pour la santé. Alors nous avons demandé d'ailleurs d'avoir, si possible, une trace, une copie de cette communication. On ne nous a pas garanti que nous pourrions l'avoir. On ne nous a pas dit que ce n'était pas bien de le demander, mais on ne l'a pas. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Mais de toute façon, tous les comités et tous les collectifs ont exigé cette remontée pour que ceux qui aujourd'hui ont les manettes pour pouvoir appuyer sur cette levée des brevets, c'est quand même les politiques, c'est pas les ARS, c'est pas c'est pas le ministre de la Santé, c'est vraiment les financiers, c'est vraiment les commerciaux. Voilà, donc voilà quoi on s'est affairé depuis des mois, c'est d'abord traduire cette opposition entre le fait que ce bien commun, effectivement, on pourra revenir, qu'est la santé publique, ça c'est presque c'est une évidence, comment elle est contrariée par des phénomènes économiques commerciaux.
Merci. Et justement, en fait, c'est depuis le milieu des années 90. Comment ça se passait avant les années 90? Justement, c'était moins contraint au niveau commercial, en fait, cette production de médicaments.
Absolument. Alors, les brevets existaient déjà. Alors, bon, je ne suis pas un historien des brevets liés à la médecine et au vaccin, mais il y avait pour les différents pays une marge de manœuvre d'action qui était beaucoup plus grande que ce qu'a apporté cet accord qui s'appelle ADEPIC. Donc, c'est accord sur les aspects de propriété intellectuelle liés au commerce et qui a été effectivement applaudi. Alors, d'abord, il a été promu, mais applaudi par les grands groupes économiques mondiaux, les grandes entreprises, et particulièrement les labos pharmaceutiques, qui ont vu là une occasion de rendre encore plus impérative l'usage des brevets et des royalties sur ces brevets, ou de verrouiller, dans certains cas, l'appareil de production, à leur profit. Alors qu'auparavant, des pays pouvaient, pour des raisons parfois de cause majeure, ou parce que c'était dans leur propre législation, dès lors qu'ils avaient connaissance, alors par des moyens, peu importe lesquels, mais ils avaient connaissance de certains processus, ou les contenus des molécules, ou les processus technologiques, pouvaient les reproduire dans la mesure où ils avaient les moyens productifs pour le faire. Et là, aujourd'hui, c'est alors totalement verrouillé.
Pas oui, totalement, justement, je me demandais s'il n'y a pas des moyens de le contourner, justement.
Alors, il y a des moyens, donc peut-être Guy, toi tu connais l'article 31 d'ADEPIC hein, qui permet de gérer les licences obligatoires.
Les licences obligatoires.
Oui, justement, tu t'en parlais tout à l'heure, puisqu'en France, il y a eu la possibilité à un moment d'y avoir recours.
Ben, disons, c'était dans la négociation de la mise en place des fameux accords ADEPIC sur la propriété intellectuelle. Il y a eu quand même des mobilisations aussi, justement, par rapport à ces produits. Parce qu'on était en pleine période de la lutte contre le sida, vraiment, où le sida tuait beaucoup le monde, il y avait très peu de traitements et autres. Voilà, donc c'était l'impératif mondial aussi que l'ensemble de la population des personnes malades puisse avoir accès au traitement. Donc il y avait des mobilisations pour essayer de contrecarrer cet accord de pique, et c'est là qu'on a, il y a eu des accords comme la licence obligatoire qu'on réussit à passer. C'est-à-dire, c'est pour permettre à des États qui n'ont pas les moyens financiers d'acheter les traitements de pouvoir faire ce qu'on appelle des génériques via les licences obligatoires pour ne pas impacter leur système de santé et pour permettre à leur population d'avoir accès à des traitements. L'exemple le plus flagrant pour la France, pays riche, c'était à l'époque il y avait Marisol Touraine qui se croyait en 2015 qui était ministre de la Santé, et à l'apparition du Sofusbuvir, traitement hépatite C qui guérit de l'hépatite C, traitement hyper efficace. Problématique qu'il y a, le laboratoire qui le met, Gilead, qui le mettait en vente, le mettait autour de 40 000 euros le traitement, c'est-à-dire sur 6 mois quoi. C'est-à-dire en France il y avait des recommandations pour la prise en charge des personnes atteintes d'hépatite C quoi. C'est-à-dire, les recommandations disaient toute personne dépistée à l'hépatite C, même en début de phase d'identification, doit bénéficier du traitement. C'est-à-dire, il y avait 200 000 personnes qui devaient bénéficier d'un traitement, et vu le coût du traitement avec le nombre de personnes, eh bien, Marisol Touraine, par peur que ça impacte sur le budget de la sécurité sociale, eh bien, ils ont mis en place ce qu'on appelle une sélection au niveau des patients pour bénéficier de cet accès à ce traitement. C'est-à-dire seulement les personnes en phase avancée de l'hépatite C ont bénéficié de ce traitement. Alors que les recommandations disaient, dès qu'on identifiait séropositif à l'hépatite C, il fallait bénéficier du traitement. Donc Marisol Touraine a refusé d'utiliser les licences obligatoires, alors que les associations comme Hépatite C, SOS Hépatite et autres, voilà, faisaient pression aussi, même Médecins du Monde, faisaient pression sur l'État français justement pour exiger qu'on mette en place des licences obligatoires. Donc elle a préféré négocier avec le laboratoire, donc elle a réussi à obtenir le prix divisé par deux, mais ce qui fait déjà quand même un prix de 20 000 euros pour le traitement, c'est déjà très élevé. Donc voilà, c'est-à-dire que... Malgré qu'il existe cette possibilité de licence obligatoire, les États ont peur de l'utiliser parce qu'on est dans un contexte où les laboratoires ont des rapports de force, on peut faire la pression sur les États pour les forcer à ne pas utiliser cette licence obligatoire.
Oui,
parce qu'après, ils peuvent, si vous voulez, ils ont la possibilité, lors d'avoir des nouvelles molécules, de ne pas le déposer sur le pays qui vous est en conflit. C'est-à-dire, ça priverait une population d'avoir accès à de nouvelles molécules.
On est toujours plus loin dans le cynisme. Je vous propose de faire une petite pause musicale et de se retrouver juste après.
Thank you.
45 minutes sur Canal Sud dans le magazine en compagnie du collectif pour la levée des brevets sur les vaccins. Il nous reste 15 minutes. Tu voulais ajouter quelque chose à propos de...
À propos de l'ADEPIC, ouais. Qui est cet accord qui a placé la propriété industrielle dans le giron de l'OMC. Et pour moi, déjà c'est choquant de savoir que les brevets qui ont trait à la santé soient placés dans ce giron. Et d'ailleurs, j'ai remarqué tout à l'heure ton étonnement en disant « mais c'est OMS ou OMC dont tu parles ?» Non, c'est bien l'OMC, malheureusement. Et ce qui est très choquant, enfin, qui est encore plus choquant, alors d'abord, c'est l'extension de tous les éléments de propriété industrielle, donc pas simplement les brevets, à la protection, entre guillemets, à la protection par cet accord des propriétaires, de ceux qui les ont obtenus, pas forcément leurs créateurs d'ailleurs, les brevets, mais... les plans, les dessins, les designs, les procédés, les droits d'auteur, les marques, les attributs, les logos, les indications géographiques, tout est placé sous ces griffes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que l'OMC s'est créé en 1995 en rassemblant un certain nombre d'accords ou de traités qui existaient déjà, dont le GATT, qui est le traité de gestion internationale des tarifs et du commerce. Eh bien, le GATT prévoit une clause qui est très importante, qui est une distinction qui s'appelle le traitement spécial mais différencié au profit des pays les moins riches, ou les pays plus pauvres. D'accord ? Eh bien, cette clause-là n'existe pas dans l'ADEPIC, c'est-à-dire que la gestion de la propriété industrielle au niveau international, son administration, est plus sévère encore pour les pays pauvres que le commerce en général. Et ça, je trouve que c'est ça que je voulais dire. C'est quelque chose de particulièrement choquant et contraignant. Et cette contrainte, on va en parler, quels sont les résultats. Et ce qu'on veut lever, c'est des questions de coûts et des questions de production.
Oui, enfin moi, la réflexion que ça m'évoque, c'est que j'ai l'impression que même des clauses particulières, spécifiques au sein de ce fonctionnement global, Bon, je ne suis pas en train d'inventer la poudre quand je dis ça, mais ça me semble même problématique. Oui. Même sur les clauses que Guy, tu évoquais tout à l'heure, on n'est pas dans le domaine de la charité, mais quand même, on va mettre en place un système profondément et structurellement injuste capitaliste, et on va instaurer une clause qu'on peut éventuellement lever sur un moment si le pays ne peut pas, n'a pas les moyens de... Bref, voilà, c'était... Peut-être qu'on peut continuer et terminer cette émission. Quelles seraient les conséquences, puisque c'est entre autres ce que vous demandez, la levée des brevets sur les vaccins, quelles seraient les conséquences selon vous de la levée des brevets? Et peut-être pour en parler, on peut s'appuyer sur d'autres exemples de traitements ou de vaccins génériques, et notamment dans les pays pauvres.
Ben, disons que sur la levée sur les brevets, c'est la levée sur les brevets, et c'est aussi demander, exiger que les industries pharmaceutiques transfèrent leur technologie aux pays qui veulent fabriquer des génériques. Déjà dans le monde entier, de toute façon, il y a l'Inde et l'Afrique du Sud qui font partie des États qui ont demandé cette levée-là, depuis plusieurs années, sont les fournisseurs de génériques au niveau mondial. Quoi. Voilà, donc ils ont les capacités, les technologies pour le faire. Ils savent faire, ils ont une technologie ou autre, voilà, ils maîtrisent. Et pour revenir sur l'histoire du sida, c'est grâce justement à l'Inde et puis à l'Afrique du Sud, comme, même il y avait le Brésil aussi à l'époque, qui ont fabriqué des génériques du médicament anti-sida, qui ont forcé le fait que ça existait après, ça n'a pas empêché, au contraire, ça a forcé l'industrie pharmaceutique à diviser par 10 le prix de certaines molécules, ça ne les a pas mis en faillite. Hein. Donc automatiquement, même en divisant par 10 les molécules, ils ont continué à vendre, à faire des bénéfices. Donc c'est pour te dire, l'indécence qu'il y avait à vendre le prix de certaines molécules, ou rien qu'à le fait de la diviser par 10, ils continuent à faire des profits. Donc voilà, le générique permet ça aussi. Quoi. Et en même temps, voilà, c'est aussi, ça veut dire, c'est au niveau mondial, c'est permettre un accès à la population mondiale à des traitements ou à des vaccins pour se soigner. Et par rapport au Covid, ce qui nous intéresse là, c'est pour limiter l'apparition des variants. Parce que justement, c'est le fait que les populations ne sont pas protégées que ces variants apparaissent. Et après, ça se diffuse au niveau mondial.
Donc là, il y a l'aspect effectivement généricité, et il y a l'aspect aussi appareil de production. Donc des études qui ont été faites par Justice Snow notamment montrent que les capacités de production sont là et on peut même les étendre, car la plasticité de certaines entreprises dans le monde entier est suffisante pour que certains lieux de production soient transformés en 6 mois.
Plasticité, c'est-à-dire la flexibilité en gros.
La souplesse d'adaptation par rapport à des besoins nouveaux. C'est-à-dire que je ne sais pas si quelqu'un qui fabrique des chars sera capable de produire des médicaments rapidement, mais il y a suffisamment d'entreprises qui sont capables, moyennant adaptation des chaînes de production, au bout de 6 mois, être capables de produire de façon massive encore plus de vaccins. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien être sans limite là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur juste un verrou financier, tout simplement. C'est pas un verrou. On peut opposer, dire oui, mais alors on n'a pas la logistique, c'est faux. Enfin, au niveau production, c'est faux. Il n'y a pas toujours la logistique pour utiliser ces vaccins et les administrer dans les pays en voie de développement. Quoique le programme COVAX, un de ses volets, consiste justement à accompagner l'administration de ces vaccins. Donc, c'est pas simplement donner des vaccins et des merdes en zizich. C'est quand même un peu plus poussé que ça. Et aujourd'hui, on a juste une production verrouillée, même sans tenir compte des prix, puisque dans le programme COVAX, il y a des doses qui sont déjà achetées, mais qui ne sont pas livrées, elles ne sont pas fournies. C'est grave quand même.
Je tiens à préciser, ce n'est pas qu'un verrou financier, c'est une volonté politique aussi. Quoi.
Oui, bah derrière,
c'est politique. Le véritable scandale, c'est les politiques qui auraient le pouvoir justement de faire pression sur l'industrie pharmaceutique, si voilà, pour lever ses brevets au niveau de l'OMC et autres. Voilà, quoi. Le problème est politique. Quoi.
Ce que tu dis, ça me fait penser. Il y a aussi la question des différents vaccins et de leur répartition, par exemple, notamment ceux qui sont accessibles dans certains pays d'Afrique du Nord. En fait, c'est aussi utilisé pour, par exemple, la politique migratoire. Aujourd'hui, dites-moi si je me trompe, parce que j'avais entendu ça, mais je n'ai pas forcément vérifié l'info, mais qu'en fait, il pourrait y avoir des critères pour la sélection des personnes qui peuvent venir sur le territoire français, par exemple, sur le vaccin, la marque du vaccin qu'ils ont utilisé. Est-ce que je dis des bêtises ou...
J'ai pas entendu ça. Alors, pour la France, j'ai pas entendu. Effectivement, j'ai entendu, mais j'aurais du mal à citer ma source, donc je vais y aller mollo quand même. Des tri à certaines frontières de l'Europe qui refuseraient des migrants non vaccinés, effectivement. Mais bon, c'est une chose que je crois avoir lue, et j'avoue que là-dessus, je veux pas prêter le flanc à des on-dit ou des rumeurs.
Oui, bon, après,
J'en sais pas
de
plus.
toute façon, sur que la vaccination serve de prétexte ou non. D'accord. Est-ce que vous avez prévu des actions ou des il y a des lieux où on peut vous rejoindre ou il y a des prochaines dates en fait à suivre sur cette lutte pour la levée des brevets?
Alors, pour l'instant, on n'a pas de date précise. On veut se caler sur en tout cas à Toulouse, on veut se caler sur une prochaine réunion de l'OMC, qu'elle soit en physique à Genève ou autre, mais c'est quand même une réunion qui est prévue pour traiter ce sujet-là. Donc, on fait pression, effectivement, sur les politiques, comme on l'a vu à travers nos actions, pour qu'ils provoquent cette réunion. Puis après, il faut que cette réunion produise des effets. Et donc, tant qu'il n'y aura pas de levée des vaccins, on continuera à agir de cette façon-là, chacun à son échelle. Parce que, effectivement, enfin, c'est quelque chose qui a été en filigrane dans toute l'émission. Et je pense que, Cléa, tu as insisté là-dessus. Certes, alors, non, même tu as dit, ça commence à bien faire le Covid. C'est vrai que ça
Non, non,
commence à
non,
bien faire,
c'était juste sur la
mais
médiatisation,
c'est
quoi.
vrai que nous, on parle de brevets sur les vaccins anti-Covid, enfin brevets, traitements et tests. Mais l'objectif, sur un plan plus structurel, c'est d'arracher la propriété intellectuelle qui a trait aux questions de santé publique, voire de santé tout court, des mains et de ces traités dont ce n'est pas du tout la vocation et qui ne sont là que pour se faire que pour faire de l'argent et du blé aux entreprises. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est plus qu'une levée, c'est déplacer déjà cette question de la propriété intellectuelle et ensuite de voir comment l'appliquer au niveau mondial. Après, ça peut poser la question d'une gouvernance. Bon, ça, c'est pas du tout dans là, je parle plus à titre personnel, mais c'est pas du tout dans les objectifs du collectif, mais évoquer une gouvernance de ces sujets-là au niveau mondial. On a quand même déjà l'OMS, on a l'UNICEF, on a déjà des organisations qui pourraient être investies de pouvoir et de capacités supplémentaires, plutôt de le laisser côté OMC, justement.
Par rapport à ACT-UP, c'est un combat de tous les jours aussi, quoi. Que ce soit face au niveau de collectif, au niveau international, ou européen, ou national. L'idée, par exemple, nationale aussi, c'est qu'enfin, en France, soit levée la transparence sur les politiques des médicaments. Il y a une opacité totale sur la fixation des prix des molécules quand il y a négociation d'une nouvelle molécule avec le gouvernement français. Donc ça suffit, quoi. Il faut que ce soit public, il faut qu'on puisse aussi mettre des garde-fous, des protections, justement pour empêcher les laboratoires privés de fixer des prix comme ils veulent, au prix où ils veulent. Ça devient indécent. Il y a de nouvelles molécules, de nouveaux traitements anti-cancer et autres, voilà aussi, avec des prix astronomiques. Où chaque fois, l'industrie pharmaceutique nous dit oui, mais c'est la recherche qui a été très pointue, le coût de production, c'est avec des éléments de plus en plus pointus, qui sont plus chers et compris. Il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des lapins qui viennent de naître. Donc, à un moment donné, c'est une pression politique qu'il faut mettre en place. Donc, il y a la campagne, je sais que par exemple, le NPA ou bien la France Insoumise ont pris position ouvertement sur la levée des brevets, sur la levée, sur la transparence des politiques des médicaments. C'est des choses qu'on doit obtenir en France aussi. Mais en même temps, il y a des combats qui se font au niveau européen et au niveau mondial aussi, au niveau de l'OMC. Voilà, quoi. C'est chacun amener sa pierre, si vous voulez, à cette histoire-là, quoi. Il faut vraiment que ce bien mondial redevienne un public. Et qu'il faut arrêter que ce soit même des laboratoires pharmaceutiques, d'une industrie privée qui fait des profits sur la santé.
Merci beaucoup. Si vous avez des choses à rajouter, c'est le moment. Si vous voulez transmettre des ressources ou des rendez-vous aux auditrices, auditeurs qui nous écoutent, c'est le moment.
Bien, on peut appeler déjà à consulter le site du collectif national. Hein, alors c'est un site qui est hébergé sur Facebook, il me semble, et qu'on retrouve en cherchant les mots-clés stop, brevet, réquisition.
Sinon, il y a notre site qui fait partie du collectif aussi, qui s'appelle l'Observatoire de la transparence et des politiques du médicament. C'est Jérôme Martin et Pauline Dandex qui en sont à l'origine. C'est deux anciens présidents et présidentes d'Acte Paris, qui à l'époque travaillaient beaucoup justement sur les accords ATPIC et sur la propriété intellectuelle. Et là, ils font un travail énorme d'information et puis de mise à disposition de ressources et autres. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur leur site, à vous renseigner. C'est très précis, ça va au-delà aussi par rapport au Covid. Ça va vraiment aussi ce que je parlais par exemple sur
la. Tu rappelles le nom, pardon. J'ai déjà oublié.
L'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament.
Ok, on mettra le lien dans le podcast. Là,
voilà, c'est vraiment une. Pour nous, ACT-UP, c'est un des points ressources.
Merci beaucoup à vous. On va se quitter
Merci.
Là-dessus. Et très bonne journée à vous. Pour le magazine, on fait une petite pause musicale suivie des cartes postales sonores. Et on se retrouve à 13h30 pour la diffusion d'une création sonore à ne pas rater.